Votre grand journal du soir sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et mes invités autour de la table, je vais vous les présenter. 30 ans après sa création, que faudrait-il changer au web? C'est une question large, mais on a essayé de trouver une question qui ne se résumait pas en oui ou non, pour ou contre. Et voilà, on va essayer d'avancer avec vos appels au 3921, avec Daniel Ishbia, qui est journaliste, écrivain, spécialiste du numérique. Vous avez écrit des biographies de Bill Gates, de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg. Bonsoir Daniel Ishbia.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Arthur Messot également, juriste à la Quadrature du Net, une association de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet. Bonsoir Arthur.
Bonsoir.
Messot. Et Hugo Travers, comme tous les mardis.
Bonsoir.
Ça tombe pas mal aujourd'hui.
Là, j'aime bien le sujet, j'aime bien.
Hugo qui est YouTuber. Sa chaîne Hugo Décrypte sur YouTube, étudiant à Sciences Po par ailleurs, et qui connaît bien toutes ces choses-là aussi. Débat jusqu'à 20h. Benjamin Muller est avec nous.
Bonsoir à tous.
Comment ça va, Benjamin?
Ça va très bien.
Comme chaque jour avec vous, Benjamin, on écoute comment les différents médias traitent un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, l'actualité est riche, bien sûr. Mmh. Abdelaziz Bouteflika, oui. La fin du grand débat à la fin de la semaine. Le Brexit aussi.
Oui.
Vous avez choisi quoi?
Alors oui, c'est vrai que ces sujets sont importants, mais non, j'ai choisi un autre sujet que j'ai appris hier en vous écoutant, Mathieu, avec Marion Calais.
Un retour inattendu.
Eh oui, celui de Zinedine Zidane qui reviendrait sur le banc du Real Madrid.
Alors franchement, quand j'ai entendu ça, j'y ai pas cru. D'ailleurs, Marion, elle utilisait à ce moment, vous l'avez entendu, le conditionnel. Donc moi, je me suis dit, bon, Marion est très sérieuse, mais là, c'est une fake news. Je suis sûr qu'elle se plante. Sauf que ce matin, à 7h, j'ai allumé à nouveau Europe 1.
Une bonne nouvelle dans le monde du foot. Zidane revient. Zizi, Zizou, reprend du service au Real Madrid.
Ah, Zizi qui reprend du service, sacré Zizou, c'est donc officiel. Personne ne l'a vu venir, pas même les chroniqueurs d'Anne Romanoff.
Zinedine Zidane revient au Real de Madrid à la surprise générale. Ça s'est décidé très vite. Zidane, c'est pas la première fois qu'il prend une décision comme ça, hein, sur un coup de tête.
Bonne vanne, verra au supporter italien. Mais en vrai, c'est pas faux, hein, ce qu'il dit, parce que ça sent la décision prise sur un coup de tête. Sur RMC, Christophe Dugarry, qui est le grand pote de Zidane depuis bien longtemps, et le journaliste qui suit le Real Madrid, en convenaient hier soir, ils n'ont rien vu venir.
Franchement, du gars, toi et moi.
Non mais non. Mais
franchement, les bras nous tombent. Nous en tombent là.
Ah mais c'est avec que les bras qui m'en tombent, je te cache pas qu'il y a tout le reste avec. Celle-là, j'ai pas vu venir.
Le fameux Zizi qui tombe à nouveau. Ça doit être ça, mais c'est pas grave. Zidane a donc donné une conférence de presse. On lui a demandé pourquoi ce choix. Et dans sa réponse, il nous a montré qu'il était philosophiquement bien au-dessus de nous tous.
Je pense à ce que mon cœur il me dit, moi. Et mon cœur, en fait, il me dit, devait dire, tu t'es bien reposé maintenant, j'ai envie de revenir. Point. C'est simplement la seule chose qui m'anime, c'est que j'ai envie.
Bah oui, question, pourquoi tu reviens? Réponse, bah parce que j'ai envie. C'est, bah, c'est magnifique, c'est Zidane, si vous voulez qu'ils disent de plus. Alors les supporters du PSG aujourd'hui, ils flippent un peu, parce que Zidane, on imagine qu'il va bientôt recruter, et à croire les journalistes de la chaîne L'Équipe, il pourrait bien se servir à Paris.
Neymar, parce que je pense que son histoire avec Paris, elle est compliquée. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais pris. Et que si le Paris Saint-Germain peut récupérer un bon billet, moi je suis les dirigeants du Paris Saint-Germain, je le vends tous les jours.
Ah bah super les mecs, ils veulent vendre la pépite. Alors bon, on peut se rassurer Mathieu, vous pouvez vous rassurer. Neymar a donné une interview à une télé brésilienne il y a quelques jours. On sent qu'il veut plus que tout rester à Paris.
Le Real Madrid est l'un des plus grands clubs du monde.
Oh non!
N'importe quel joueur aimerait jouer là-bas.
Ok, les rats quittent le navire. Ça fait plaisir, mon petit Neymar. Cela dit, comme Neymar se blesse chaque année avant les matchs importants de Ligue des Champions, ce serait pas si grave s'ils en disent quoi à l'équipe?
Et avec le cul qu'ils ont, il ne se blessera pas deux fois en deux saisons là-bas. Bon.
Ah, c'est vrai qu'il sera rétabli pour jouer contre le PSG en huitième de finale.
Absolument. Et leur mettre trois buts. Donc...
Ouais, je le sens gros comme une maison, je suis sûr que c'est vrai. En plus, dans trois mois, Neymar nous quitte. Dans un an, il nous élimine. Et Zidane regagne la coupe. Après tout, il est français. Ce sera une petite victoire pour nous, Mathieu.
Zidane !
Ah oui !
Oh, Zizou ! Zizou, qu'est-ce que tu nous fais là ?
Vous l'avez reconnu ?
Évidemment. Il n'y en a qu'un.
Eugène
Sakomano, 12 juillet 98, non?
Ça, c'est le premier but.
C'est le premier but. Ouais. Premier but de la
Corner
Coupe du Monde.
Corner tiré par
Djorkaeff.
Djorkaeff, oh. Bravo, belle mémoire.
Ça fait peur. 19h29, puisqu'on parle de foot, venez vivre le match Barcelone-Lyon sur écran géant au studio Belmar. On vient de me dire qu'il reste quelques places. Vous allez sur le site europe1.fr, vous citez sur cliquez sur l'onglet Le Club et vous vous inscrivez. On revient tout de suite, notre débat sur le web, sur Europe 1.
Mathieu Béliard est sur Europe 1 et vos invités ce soir, Daniel Ishbia, journaliste, écrivain, spécialiste du numérique. Vous avez écrit des biographies sur Bill Gates, Steve Jobs et Mark Zuckerberg. Arthur Messot, juriste à la Quadrature du Net, une association de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet. Et Hugo Travers, comme chaque mardi, YouTuber, sa chaîne Hugo Décrypte sur YouTube.
Ah ben, Hugo est avec nous tous les mardis et c'est tombé le jour anniversaire du web, les 30 ans du web. Que faudrait-il changer au web? On a progressé quand même.
Pas vraiment.
Si, c'est la progression.
J'avais le souvenir de notre vieille, notre vieux modem.
Il y a du bon et du mauvais.
Il y a du bon et du mauvais à l'image de la vie. Bon, on va faire un premier tour de table très rapide. Comme ça, pas vraiment, non, nous disait Arthur Messot. Ouais. Hugo Travers, quand il est né, Hugo, le web avait déjà 10 ans. Hein.
C'est presque ça.
Non, mais sincèrement, pour parler d'Internet et des 30 ans du web, on évite toutes ces questions comme est-ce qu'on pourrait s'en passer ou pas. Aujourd'hui, ce serait presque absurde comme thématique. Cela dit, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de points noirs. On s'est inspiré de Tim Berners-Lee, qui est celui qui a inventé le réseau tel que nous le connaissons aujourd'hui, enfin qui a bien évolué. On a été dépassé par notre création, dit-il.
Totalement, c'est vrai. Mais tout le monde, même Mark Zuckerberg le dit, il est dépassé par Facebook. Mais c'est comme toute révolution. La révolution s'est faite à une telle vitesse qu'on a galopé comme on pouvait pour essayer de suivre. Aucun auteur de science-fiction n'avait prévu le web. C'est quand même assez incroyable, quoi. Le web, ça a dépassé tout le monde et ça s'est créé en temps réel, si je peux dire.
Cela dit, il y avait au démarrage, chez les pionniers d'Internet, une forme d'idée peut-être utopiste de liberté, de possibilités qui s'ouvraient à nous, Arthur Messot.
Alors, c'était pas utopiste, c'était pas juste la liberté comme ça, comme un grand mot. Alors, les fondateurs d'Internet, c'est pas le web, hein, ça arrive avant. Internet, à la base, c'est relier des ordinateurs entre eux, entre universités pour partager la recherche. Donc c'est un truc
c'est
très
la technologie
pragmatique.
Internet.
Voilà, très pragmatique. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de centre, il ne faut pas qu'il y ait une autorité qui décide pour nous, parce qu'on est des chercheurs, on est des amoureux de la culture, on est des amoureux du savoir, et nous on sait que dès qu'il y a un centre, comme la télévision, la radio, eh bien, ce centre-là va dévier le savoir, va dévier la culture pour en faire une marchandise et pour en fait rendre tout ça très très très, très vicié. Et ça, cette idée-là, cette idée de l'Internet horizontale, égalitaire, c'est pas une utopie, parce qu'à la base, Internet, si ça a marché, c'est parce que c'était comme ça. C'est par-dessus, après, au bout de 10 ans, 15 ans, que des grands marchands sont arrivés, avec beaucoup d'argent à mettre en jeu, et qui ont transformé ce modèle pour, en fait, prendre une structure horizontale et la retransformer en quelque chose qui ressemble à la télévision. Mmh. Aujourd'hui, YouTube, ça ressemble bien plus davantage à la télévision classique, à TF1 ou à Europe 1, que à l'Internet des débuts.
C'est qu'on a eu une professionnalisation en fait au fur et à mesure, mais même d'ailleurs c'est peut-être pas le bon terme, on a eu des acteurs qui ont émergé et qui ont fait d'Internet quelque chose qui au début était très horizontal, quelque chose en fait avec des leaders. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle d'Internet, du web, on regarde les usages de chacun d'entre nous au quotidien, on passe notre temps en réalité sur 4, 5 plateformes ou sites sans aller beaucoup plus loin en général dans la plupart des cas. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de monopole, on peut dire, quasiment, et des acteurs, donc ça peut être les GAFA, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des Netflix, etc., qui s'accaparent au final cette technologie pour ensuite des intérêts qui sont des intérêts capitalistiques, mais c'est évident parce que c'est des entreprises qui basent leur modèle économique sur l'attention.
Il y a 10 ans, c'était pas ça. Alors, il y a 30 ans, évidemment, c'était pas ça. Mais il y a 10 ans, on n'allait pas sur juste 4 sites. On avait toute une myriade de petits forums qu'on aimait pour des formes de cuisine, des formes de pêche,
si je peux me permettre. Bien avant les universités, c'était un cahier des charges militaire au départ, Internet, en 69. C'était une demande de l'armée américaine qu'un message envoyé n'importe où dans une base américaine à une autre base américaine dans le monde puisse arriver, même si on fait sauter la moitié de l'Amérique.
Donc c'est la technologie Internet.
Donc après, c'est pour ça que c'est décentralisé, c'est parce que c'était les militaires qui l'ont voulu comme ça au départ.
Bon, pas tout à fait. Mais...
Non, mais alors, parce qu'il faut expliquer un truc qui doit être clair. Il y a Internet, la technologie, relier des boîtes, relier des ordinateurs et s'envoyer peut-être un mail d'un ordinateur à un autre où que l'on soit sur la planète. Et puis il y a le web, il y a le système de navigation.
Le web, qui est comment faire plus simple.
L'idée de faire des liens.
C'est ce qui fait qu'on ne peut pas arrêter Internet. C'est ce système qui a été fait en 69. Je peux prendre un exemple très simple.
Allez-y.
Disons qu'un militaire américain veut envoyer à sa fiancée qui est au Japon le message « I love you ». Le message est découpé en trois parties « I, love et you ». Le « I » va partir par les Caraïbes, le « love » va partir par satellite, le « you » va partir par les lignes sous-marines. À la fin, un des messages qui est arrivé, le « you » arrive, il dit « tiens, moi je suis arrivé », il va dire aux autres « vous pouvez venir par là ». Donc même si on a fait sauter la moitié de l'Amérique, les messages peuvent arriver. C'est ce qui fait que le web, on ne peut pas l'arrêter, c'est que Internet a été conçu pour que... C'est un peu comme Terminator 2. Un message à une mission, c'est d'arriver jusqu'à bon port.
Même ça, ça a disparu. Quand on voit qu'aujourd'hui, Amazon détient une très grande partie de l'hébergement de serveurs sur Internet. Netflix, on oublie Netflix, c'est hébergé par Amazon. 30%. La plupart des sites que vous allez voir, des sites un peu costauds, un peu commerciaux, ça sera hébergé par Amazon. En fait, même dans l'infrastructure même, c'est-à-dire où sont les machines, qui a le pouvoir sur les machines, Là, on a une centralisation qui n'était pas du tout là encore il y a 10 ans ou 20 ans. Et alors, Amazon, on pense que c'est juste un service de vente de bouquins en ligne. Non, Amazon, ils ont pour objectif de s'emparer d'une infrastructure mondiale, hein, c'est pas juste aux États-Unis.
C'est des serveurs qui sont utilisés notamment par les administrations françaises. Et c'est vrai que, du coup, c'est un point, je pense, qui est important, c'est que c'est vraiment cette émergence de plateformes qu'on connaît tous, mais typiquement Amazon, on connaît Amazon pour Amazon, on va acheter des livres, des objets, plus que des livres d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est bien au-delà de ça, c'est des acteurs en fait qui orientent le web vers quelque chose de très précis, et c'est eux en réalité qui ont le pouvoir sur tout ça. Typiquement, peut-être qu'on va en reparler après, mais...
Non, allez-y, Daniel. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 95, quand le web démarre, il y a 10 000 personnes sur la ligne de départ. Et à l'arrivée, justement, ils sont plus que 4 ou 5. Il reste Facebook, Amazon, Google.
Ils n'étaient pas là au début. Ils n'étaient pas là. Non, Facebook n'était pas là du tout au début.
Je schématise quand je dis ça.
Mais c'est intéressant de voir.
Effectivement. Mais il y avait quand même Amazon qui était là en 95. Et en fait, il y avait une très petite fenêtre parce que Microsoft, à l'époque, faisait 90% de l'informatique. Microsoft a été balayé par Google. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dans cette petite fenêtre, il y a
Google
eu quelques boîtes qui ont réussi.
En 98, je crois.
98, ouais. C'est ça, bravo. Et il y a eu quelques boîtes qui ont réussi
à soutenir les 20 ans.
Mais la plupart de ceux qui étaient sur la ligne d'arrivée sont tous morts.
19h38. Europe 1. Peut-être, sincèrement, peut-être que ça va un peu vite parce qu'on a trois connaisseurs et qu'on parle de sujets assez techniques. Mais on va retenir peut-être de cette première partie l'idée que l'horizontalité s'oppose à une forme de centralisation du trafic sur Internet. Dans un instant, j'aimerais qu'on parle aussi des données, des utilisateurs, mais pas seulement. Restez bien sur Europe 1, il est 19h38.
Vos invités, Mathieu Béliard sur Europe 1 ce soir, Daniel Ishbia, journaliste, écrivain, spécialiste du numérique. Vous avez écrit les biographies de Bill Gates, Steve Jobs et Mark Zuckerberg. Arthur Messot, juriste à la Quadrature du Net, association de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet. Et Hugo Travers, youtubeur, sa chaîne Hugo Décrypte sur YouTube, étudiant à Sciences Po.
Quand on traverse ces 30 années de web, on est parti d'une forme d'horizontalité, de liberté, à une forme de concentration avec des entreprises qui ont une mainmise importante, plus importante encore que vous ne l'imaginez, sur votre utilisation d'Internet et du web. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans l'ère de la donnée? On parle beaucoup des données des utilisateurs, ce qu'on accepte de donner comme information nous concernant. Et à travers cette question-là, qu'est-ce qu'on perd comme liberté, Arthur Messot?
Alors c'est très ambigu. Est-ce qu'on est dans l'ère de la donnée personnelle? D'un côté, on a envie de dire, oui, il y a parmi les 5 plus grosses entreprises mondiales, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, la donnée personnelle, l'exploitation de notre vie privée pour faire de la publicité ciblée, les porte énormément économiquement. D'un côté, on a envie de dire oui. Mais de l'autre, si on regarde le droit et les évolutions, notamment en Europe, on a envie de dire, mais non, c'est pas l'ère de la donnée. Le droit européen, aujourd'hui, nous protège et dit, on ne peut pas faire commerce sur la vie privée des gens. Nos données personnelles, qu'est-ce qu'on fait, à quelle heure, avec qui on parle, ça, ce sont l'émanation de libertés fondamentales auxquelles on ne peut accepter aucun petit reniement. On ne peut pas les brader contre de l'argent. Ça, c'est notre philosophie européenne et c'est dans la loi. Et ça s'oppose au modèle économique dominant d'Internet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une opposition entre la réalité, où en effet on a des géants, où c'est l'ère de la donnée, et le droit et nos valeurs politiques qui disent l'inverse.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une dimension sociale qui est très importante, dans le sens où on sait tous, aujourd'hui, il y a eu tellement de scandales, il y a eu Facebook, il y a eu plein d'éléments. On sait aujourd'hui que les plateformes utilisent nos données pour faire de la publicité, etc. C'est quelque chose qu'on entend un peu partout, sans forcément savoir dans les détails comment ça fonctionne, mais c'est un discours qui revient assez souvent dans l'actualité. Le problème, c'est qu'on a beau entendre ça, on est tellement dans un contexte social qui est tel que moi, typiquement, je veux dire, tous mes amis sont sur les réseaux sociaux, j'y suis aussi, et donc il y a des réflexes, il y a des choses qui font que c'est très difficile d'en ressortir et d'aller vers autre chose. Et donc c'est ça aussi la difficulté. Je prends l'exemple des moteurs de recherche. On peut prendre l'exemple de Google. Logiquement, il y a des alternatives. Alors c'est pas le meilleur exemple, mais Quant typiquement est une alternative. Est-ce qu'on va avoir le réflexe de passer à une autre plateforme qui n'utilise pas nos données personnelles? Il faudrait l'avoir, mais c'est pas forcément évident parce qu'il y a une question d'usage, une question d'habitude et aussi de lien avec les autres personnes avec qui on interagit.
Daniel Ishbia.
Oui, ce qui se passe, c'est quand on tape chez nous sur Facebook, sur Google, on s'en rend pas compte. Nos données partent aux États-Unis, elles vont sur un ordinateur en Californie et par défaut, ces sociétés-là, Google, Facebook et les autres, ne respectent pas notre droit par défaut. Ils considèrent qu'ils sont redevables du droit américain. Il y a eu des tas d'exemples où des gens disaient à Facebook, je ne suis pas content des données que j'ai chez vous, il faudrait que vous me les retiriez. Ils disaient, non, nous, en France, ils vous diront, on répond au droit américain. Et ce qui est assez incroyable, c'est que pendant des années, on n'avait pas du tout prévu ce qui allait se passer. On a fait des lois. Je peux contacter le gouvernement français, leur dire, qu'est-ce que vous avez sur vos fichiers, sur moi? Retirez cette donnée, vous ne devez pas la conserver. Je ne peux pas le faire avec Facebook, Google, Amazon et les autres parce que eux, et on a fait des essais dans un magazine où j'étais, ils répondent non, ils répondent au droit américain. C'est les sociétés américaines qui se considèrent liées au droit américain.
Il y a la question de la liberté individuelle avec ces données, comment nous serions manipulés ensuite par de la publicité. Il y a aussi cette idée quand même.
Manipuler, c'est pas le mot, données... on est ciblé.
Pourquoi c'est pas le mot? C'est le but. Eux, ils prétendent, Facebook, ils vendent ça à ses clients, ils disent on a la capacité de manipuler les utilisateurs de Facebook, payez-nous pour le faire. C'est vraiment leur communication. Hein. Donc si, c'est long en fait.
J'ai pas vu ça écrit.
Alors, ce point-là, mais je m'en servais pour aller sur le suivant. Il y a aussi aujourd'hui l'idée que nos données individuellement, moi, Hugo, Arthur, Daniel, Omblin, ici autour de la table, servent à manipuler des masses. Cela, c'est l'exemple Cambridge Analytica, les intrusions dans
Cambridge
des élections.
C'est encore différent. C'est Google s'est fait. Non, je veux dire, Facebook s'est fait avoir.
Mais non, pas
c'est
du
une
tout,
boîte,
pas
c'est
du
une
tout.
App.
C'est pas vrai.
C'est une app Facebook qui a menti à ses utilisateurs, qui a dit. Voilà, je vous vends un test de personnalité qui après a vendu ça au Parti républicain pour manipuler l'élection américaine dans le sens de Donald Trump.
C'est une boîte qui a juste utilisé Facebook de la même façon que Facebook utilise Facebook.
Mais non, sans rentrer dans les détails, l'idée effectivement, c'est qu'il y a une question de l'utilisation qui est faite de ces données. On peut avoir une entreprise qui veut communiquer sur un produit, mais on peut aussi avoir, et c'est ce qu'a montré le scandale Cambridge Analytica, cette utilisation des données pour cibler du coup des électeurs dans le cadre d'une élection politique. Il y a eu les États-Unis, il y a eu le Brexit, il y en a eu plein d'autres où il y a des cas de figure très précis où des entreprises privées ont fonctionné avec des partis politiques ou avec des organisations pour essayer d'influencer l'opinion à travers ces plateformes-là. Et là, ça pose une question démocratique, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que ce soit possible de faire de la publicité? Mais les élections en 2016 aux États-Unis étaient un bon exemple sur les plateformes, sur des candidats de façon aussi ciblée que ça, parce que c'est quelque chose qui est quasiment militaire dans le sens où c'est extrêmement bien ciblé. Vous avez la possibilité de tester différentes publicités, de voir ce qui fonctionne le mieux et donc d'optimiser pour chacun d'entre nous individuellement.
C'est même pas un des
publicités. Gabriel n'est pas responsable, mais c'est même un opposant, c'est un des pires opposants à Donald Trump qui existe et on a utilisé son outil un petit peu contre ses convictions.
C'est complètement faux. L'outil de Facebook, il a pour but d'influencer la pensée des gens. Ça a été conçu comme ça, ça ne sert qu'à
ça. L'application ne faisait pas partie de Facebook. Il faut quand même dire les choses clairement.
Il ne faut pas faire de distinction entre la manipulation à fin électorale, comme on a vu pour le Brexit et d'autres, et la manipulation à fin économique. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de gens qui achètent des Apple, des iPhone, qui se ruinent alors que leur appareil ne leur sert à rien? Ils ne vont pas du tout l'utiliser à pleine
capacité.
Ils vont vraiment dépenser beaucoup d'argent, parfois prendre même des crédits à la consommation, parce qu'ils sont harcelés de publicité. On leur dit, si tu n'achètes pas tel téléphone, t'es une merde, tu n'as pas ta place dans la société. Et ça, comment c'est possible? C'est parce qu'on est matraqué de publicité, on est harcelé et on est manipulé. Et ça, c'est aussi grave que des manipulations électorales.
19h47. Vous restez bien sur Europe 1, 30 ans après sa création, que faudrait-il changer au web? Le débat qui continue à animer ici, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Vos invités Mathieu Béliard sur Europe 1, Hugo Travers, youtubeur, sa chaîne Hugo Décrypte sur YouTube, étudiant à Sciences Po, Daniel Ishbia, journaliste, écrivain, spécialiste du numérique. Vous avez écrit les biographies de Bill Gates, Steve Jobs et Mark Zuckerberg. Et Arthur Messeau, juriste à la Quadrature du Net, association de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet.
Bon, on sera tous d'accord et vous allez vous moquer, c'est assez caricatural comme formule, pour dire qu'il y a des problèmes sur Internet.
Bien sûr.
Aujourd'hui, quand on demande 30 ans après sa création, que faudrait-il faire? Hors antenne, avant même le début du débat, Arthur Messeau, vous disiez, bon, à la limite, débrancher l'ordinateur.
Ah oui, si on veut abandonner, si c'est trop d'efforts de réparer Internet, oui, c'est pas grave, partez. Hein. Il y a plein d'autres choses à faire, pas de soucis.
Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison de le souligner.
On peut retourner à l'âge agricole aussi, mais bon, on peut vraiment les quitter. Le truc, c'est que c'est quand même des produits, c'est des services gratuits, Facebook, Google et les autres. N'importe qui peut les quitter quand il veut. Mais pourquoi on quitte pas Facebook? C'est parce que sa cousine y est, sa tante y est, etc. Et Google, jusqu'à preuve du contraire, je ne vais pas faire de pub, mais moi j'ai voulu changer de moteur de recherche, j'ai pas trouvé plus efficace pour l'instant parce qu'ils utilisent énormément d'intelligence artificielle pour bien comprendre ce qu'on cherche. Donc c'est vrai que c'est les plus efficaces.
Mais aujourd'hui, la question que je me pose, à la fois en tant que simple citoyen qui serait à l'écoute d'Europe 1, mais aussi en tant que société, quelles alternatives on a finalement à ces superstructures que sont les GAFAM ou les entreprises chinoises?
En fait, quand on parlait de l'Internet des origines il y a 30 ans ou il y a 20 ans, un Internet qui est décentralisé, il n'est pas mort cet Internet. Il est toujours là, il est très actif, très vif, c'est juste qu'on le voit moins parce qu'aujourd'hui on a des soleils ou des planètes énormes qui le cachent. Mais en fait, avoir des réseaux décentralisés, des forums hébergés par plein de personnes, ça existe encore. C'est à petite échelle, c'est à taille humaine, ça fonctionne bien mieux que Facebook, l'ambiance est bien meilleure, il y a beaucoup moins de conneries, on est plutôt entre potes, etc. Ça existe toujours. Le problème aujourd'hui, c'est que en fait, le gouvernement en Europe et le gouvernement de Macron, de façon très flagrante, ne veut pas d'un Internet alternatif. Lui, il a 5 plateformes gigantesques avec qui il collabore très bien, mais ça lui va, il ne veut pas changer de programme pour lutter contre les fake news, pour lutter contre la haine, pour lutter contre le terrorisme, ou en fait, tout ça pour lutter contre des discours politiques qui le dérangeraient, il préfère largement que Facebook, Google, Microsoft, Amazon et Apple restent au pouvoir. Et ça, ça se traduit dans la loi, en fait, en prévoyant des obligations qui seront appliquées à tout le monde, mais qui ne seront réalisables que par la poignée des quelques géants.
Je pense qu'il y a plusieurs points là-dessus. Déjà, il faut être conscient, tout simplement, de l'utilisation des données, de nos données qui est faite par tous ces géants du net. C'est très bête dit comme ça, mais c'est vraiment, à partir du moment où on est conscient, on peut déjà ensuite aller vers la suite et potentiellement réfléchir à des alternatives. Moi, je te rejoins pas forcément sur le fait qu'il y ait des alternatives pour toutes les plateformes. Je suis youtubeur, je prends l'exemple de YouTube. Aujourd'hui, il y a des alternatives en termes de plateformes, d'hébergement de vidéos. Mais oui, mais alors c'est très difficile en tant que créateur, du coup, de demain aller sur une autre plateforme et de transposer.
Ah, mais ça prend une solution magique.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments. Typiquement, pour moi, YouTube, c'est encore trop tôt pour imaginer des alternatives. Mais il y a d'autres éléments.
YouTube qui appartient à Google,
faut le rappeler. Mais pour typiquement le moteur de recherche, Quant, pour moi, fonctionne très bien. La seule question, c'est aussi une question d'habitude. C'est-à-dire qu'on est habitué sur Google à avoir tel site internet qui apparaît en premier dans les résultats de recherche parce qu'on est habitué depuis des années à taper nos recherches sur Google. Bah, Quant, peut-être que c'est un petit peu différent parce qu'il ne fonctionne pas tout à fait pareil. C'est pas pour autant que c'est moins pertinent. Simplement, c'est une question d'habitude. Voilà, c'est une question d'habitude et d'interface. C'est une question d'habitude, il faut essayer.
On est juste dans un changement de société. Internet nous a fait changer de civilisation, et dans tout changement de civilisation, il y a des perdants, des gagnants, il y a ceux qui arrivent à s'adapter. Pour les gens qui arrivent à bien tirer parti de tous ces nouveaux outils, c'est de l'or, c'est magnifique. Et il y a des gens qui sont un peu dépassés. Bon,
c'est toujours les mêmes. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent pour investir.
Le bon qu'on peut tirer d'Internet l'emporte probablement sur le mauvais.
Faut voir. Dans 10 ans, c'est possible. Aujourd'hui, actuellement, c'est ceux qui avaient beaucoup d'argent pour investir, qui étaient soutenus par des gouvernements, qui tire l'épingle du jeu.
Mais c'est intéressant. Je pensais qu'ils étaient au-delà des gouvernements, plus forts que les gouvernements. Arthur Messon, vous insistez sur le fait, vous l'avez dit plusieurs fois, que les gouvernements sont main dans la main.
C'est très simple. Aujourd'hui, on a Mark Zuckerberg qui a été reçu il y a 6 mois par Macron chez lui. Et Mark Zuckerberg, dans des billets de son blog, dit on est en train de travailler avec la France, main dans la main, pour construire une nouvelle loi contre la haine, de la modération en ligne. Et Macron s'en cache même pas. Il y a vraiment une alliance de.
Prenons l'exemple d'Arthur. C'est extraordinaire. Tu es sur YouTube aujourd'hui.
Hugo.
Tu te fais connaître aujourd'hui sur YouTube.
Ouais.
Il y a 10 ans, c'était pas possible.
Bien sûr, c'est arrivé. Laurie, la chanteuse, s'est fait connaître comme ça. Elle n'était pas sur YouTube. Hein.
Qui ça?
Laurie, la chanteuse, elle s'est fait connaître sur Internet principalement.
Mais en termes, il y a pas du tout YouTube. Il y avait rien.
On n'a pas eu besoin de YouTube en fait pour qu'Internet soit cet espace de diffusion.
Moi, je connais des auteurs,
des
indépendants qui se font connaître sur Amazon et ils vendent leurs livres en auto-édition. J'ai un copain, Jacques Vendroux, etc. Il a même été numéro 1. C'est des choses qui n'étaient pas possibles avant.
Mais ça existait avant. C'est complètement faux. Ça veut dire que ça existait avant.
Beaucoup. Il y a des alternatives. On va garder le verre à moitié plein. On pourra en parler pendant des en même temps, balayer 30 ans d'histoire du net et se projeter dans 30 ans, comparer Hugo Travers à Laurie, tout était possible ce soir. Hugo Travers, youtubeur, sa chaîne Hugo Décrypte sur YouTube, étudiant à Sciences Po. Merci Hugo. Arthur Messot, juriste à la Quadrature du Net, une association de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet.
Merci.
Et Daniel Ishbia, journaliste, écrivain, spécialiste du numérique, qui a écrit notamment des biographies de Bill Gates, de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg. Merci beaucoup à vous trois.